Oh, quoi que non, ça va, j'arrive pas à m'en venir. Mais c'est bon.
Bien, bonjour à tous. Donc, nous allons démarrer cette table ronde intitulée Rencontre avec Christophe Vacher. Donc, Christophe Vacher qui a réalisé cette année l'affiche du festival. Donc, cet entretien va avoir un petit peu pour but de nous faire connaître davantage Christophe, sa carrière. Et tout un certain nombre de choses, et on terminera éventuellement par une série de questions-réponses si vous souhaitez l'interroger pour approfondir certains points qu'on n'aurait peut-être pas forcément abordés. Alors tout d'abord, Christophe Vacher, qui êtes-vous?
Donc je suis illustrateur, designer, peintre, directeur artistique aux États-Unis. Donc j'habite à Los Angeles depuis 16 ans. Travaillant principalement dans le milieu de l'animation et du cinéma, j'ai développé mes propres peintures à côté pour les galeries d'art, et puis je fais beaucoup d'illustrations. Il y a certaines de mes images qui sont constamment réutilisées pour des couvertures de livres là-bas ou ici. Voilà, donc en fait j'ai travaillé pour pendant 10 ans à peu près pour Disney, donc j'ai de temps en temps, ça m'arrive d'y retourner aussi. J'ai travaillé pour DreamWorks, j'ai travaillé pour Universal Studios, Focus Features, des assez gros studios. Et puis je partage mon temps entre ça et puis le sport, voilà.
D'accord. Alors, comment a commencé votre carrière ?
Ma première expérience dans l'animation, c'était les Tortues Ninja, la série des Tortues Ninja en 89. Et donc c'était les studios IDDH qui n'existent plus maintenant, mais qui avaient introduit à l'époque Goldorak, qui était donc la première série d'animation japonaise, en fait, non seulement en France mais en Europe. C'est un petit peu ce qui a ouvert la voie à l'animation japonaise, non seulement en Europe, je dirais, mais probablement de manière générale en Occident, parce que même les États-Unis, enfin, ça arrivait à peu près en même temps aux États-Unis, mais pas avec les mêmes séries. Donc voilà, c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Et puis, de fil en aiguille, j'ai quitté la société IDDH et puis je suis rentré. Enfin, j'ai eu plusieurs petites expériences de studio à Paris. Et puis Disney est arrivé à Paris à ce moment-là, donc j'ai eu la chance de présenter un dossier et d'être pris à Disney.
Et donc c'était en 1993, effectivement, ouais. que vous arrivez au studio Disney de Montreuil.
C'est ça, oui, quand ils étaient encore là-bas.
Donc en quoi est-ce que ça a changé justement votre carrière? Qu'est-ce qui s'est passé après? Parce qu'après il y a eu le grand saut vers les États-Unis.
J'ai eu un coup de chance extraordinaire, parce qu'en fait... à l'époque, il arrivait ce qu'on a appelé le deuxième âge d'or de l'animation à cause du film Le Roi Lion, en fait. Le Roi Lion a fait un tel succès au box-office que tous les gros studios américains voulaient ouvrir un département d'animation. Et donc, il se trouve que j'étais là-bas, enfin, j'étais ici, j'étais toujours en France à ce moment-là, mais c'est devenu très facile, enfin, pas très facile, mais relativement facile pour quelqu'un qui voulait faire l'animation, de négocier avec les gros studios. Donc à l'époque, il y a beaucoup d'artistes à Disney, en fait, qui sont partis, qui ont claqué la porte, qui sont allés travailler pour d'autres studios. En fait, moi, j'ai pas fait ça. J'avais des propositions d'autres studios, mais ce que j'ai fait, je suis retourné voir Disney et puis je leur ai dit, voilà, j'ai d'autres propositions. Est-ce que vous avez quelque chose à proposer? Ils m'ont dit, oui, qu'est-ce que vous voulez? Et donc j'ai dit, j'aimerais partir aux États-Unis, et donc ils m'ont accordé de partir, mais ils m'ont aussi proposé, enfin ils m'ont demandé sur quel projet je voudrais travailler. Et donc à l'époque, je sortais de, on avait travaillé en France sur Le Bossu Notre-Dame, Dingo et Max, Le Bossu Notre-Dame, et puis un court métrage qui s'appelait Runaway Brain, que personne ne connaît vraiment, mais qui était en fait un peu une antithèse de Mickey se transformant en Frankenstein. Et donc à ce moment-là, donc je suis parti aux États-Unis, et mon premier film aux États-Unis, c'était Dinosaur. Et donc j'étais concepteur artistique sur Dinosaur.
D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme autre projet majeur chez Disney? Et au plan technique, qu'est-ce que ça vous a apporté, cette expérience?
Bah déjà, enfin, le fait de travailler pour Disney, bon, bien sûr qu'on aime ou qu'on déteste Disney, c'est pas important. En fait, ce qui est important pour un artiste, c'est de savoir que à Disney, il y a des artistes qui sont entraînés de manière classique et qui sont, enfin, de manière très très pointue. Et ça, c'était vraiment une chance extraordinaire de pouvoir travailler avec ces gens-là, qui m'ont vraiment vraiment beaucoup appris. Et c'est pas seulement être dans un moule Disney, c'est côtoyer des artistes qui ont été entraînés de manière conventionnelle et traditionnelle et classique, et qui en fait permettent un développement personnel artistique vraiment exceptionnel. Et donc c'est ce que ça m'apporte, tout ça. Donc j'ai travaillé après Dinosaur, j'ai travaillé sur Hercule, Tarzan, ah oui, Fantasia 2000, La planète au trésor, c'était à peu près tout, je crois. Et puis je suis parti de Disney. C'est là que j'ai commencé de développer ma carrière en galerie d'art. Pendant un an et demi, j'ai fait que ça. Et puis j'ai été engagé par Dreamworks pendant un an. J'ai travaillé sur Gang de requins, puis j'ai quitté Dreamworks. Je me suis reformé complètement à l'animation en 3D.
En 3D, oui.
Et puis je suis de nouveau parti. En fait, j'ai continué en parallèle donc tout ce développement personnel de peinture pour galerie d'art. Et puis à ce moment-là, j'étais engagé sur Enchanted, donc en français, Il était une fois.
Oui.
Et donc là, j'étais pour la première fois directeur artistique, en fait. Et ça comprenait à la fois... Généralement, le terme de directeur artistique en animation comprend plus tout ce qui est lumière, couleur et texture. Dans ce cas-là, ça comprenait aussi tout ce qui était design. Donc j'ai fait beaucoup de design et de couleurs et de lumière, en fait, toute la direction artistique plus le production design, en fait, sur Il était une fois. Et j'ai enchaîné tout de suite après ça sur numéro 9, mm-hmm. qui était en fait complètement pareil à l'antithèse de ce que pouvait être Disney, et qui reste à ce jour, en fait, numéro 9, ça reste à ce jour un de mes projets préférés, vraiment, sur lequel j'ai énormément aimé travailler.
Et donc c'était produit par Tim Burton et réalisé par Anshaka.
Shanaker, oui.
Shanaker, en fait, pardon.
Ouais. Donc en fait, Tim Burton était en fait, il n'était pas vraiment présent. Bon, moi je l'ai jamais rencontré. Il a rencontré le réalisateur deux ou trois fois. Il regardait comment se déroulait le film, et puis il donnait des corrections, des notes au réalisateur. Et puis, mais il était très occupé à l'époque par Sweeney Todd. Et puis le festival de Cannes, et donc en fait il devait visiter le studio où on faisait numéro 9, et puis il n'a jamais pu.
Et donc suite à ce travail, vous avez été nominé aux Annie Awards, donc l'équivalent des Oscars pour l'animation, dans la catégorie meilleure production design pour un long métrage. Est-ce que ça a apporté un plus à votre carrière? Est-ce que ça a permis de rebondir sur d'autres choses?
Oui, tout à fait. Enfin, bon, ça commence de mettre un peu votre nom dans faire connaître un peu votre nom, donc effectivement, oui, ça a commencé il y a des gens qui ont commencé de me contacter, et puis ça apporte toujours un plus, oui, tout à fait.
Mm-hmm. Et alors, donc, après ça?
Alors, après ça, donc, numéro 9, quand je suis revenu ici, j'ai fait plusieurs petits à Los Angeles, donc j'ai fait plusieurs petites choses pour différents projets. Et puis finalement, j'ai été contacté pour être production designer sur un long métrage qui était réalisé entre Israël, Los Angeles et Vancouver par deux frères, en fait, qui étaient des vétérans de Disney, les frères Zandag, qui étaient originaires de Vancouver et qui, en fait, donc me connaissaient depuis Dinosaur, puisqu'un des deux frères était co-réalisateur sur Dinosaur. Et donc, ils m'ont proposé le production design. Puis ça a commencé, et puis c'est à ce moment-là que la crise mondiale est arrivée. Donc il y a le financier principal du projet s'est retiré, et il y a eu un domino effect et donc tout s'est écroulé. Mm-hmm. Et je suis parti. Je suis revenu à Los Angeles et puis après ça, j'ai continué de faire d'autres petits jobs freelance pour différents projets. Et finalement, quand j'ai été contacté pour la série Transformers Prime, donc qui était de nouveau une série télé, enfin pour moi c'était un retour à la télévision. J'avais passé le plus clair de mon temps sur des longs métrages. Et ça m'a intéressé non seulement parce que j'avais grandi avec l'arrivée de l'animation japonaise en Occident, mais aussi parce que venant du long métrage, j'avais l'habitude de gros budgets où on avait beaucoup de temps et on avait pu développer une certaine qualité. Donc pour moi, l'intérêt de cette série, c'était d'essayer de voir à quel point on pouvait augmenter la qualité d'une série avec un petit budget, en sachant que le but, c'est d'acquérir un maximum de qualité. Donc je voulais essayer de voir à quel point on pouvait, à quel niveau on pouvait arriver. Et en fait, c'est tout à fait possible. Donc je me suis rendu compte que vraiment, quand on a quelques personnes qui, à la tête d'un projet, qui connaissent exactement leur travail et qui savent où on va, on peut acquérir une qualité énorme avec un petit budget sur une série télé. Et donc, on a eu les résultats, on a eu 11 nominations aux Emmy Awards, j'ai gagné 2 Emmy Awards, un l'année dernière, un cette année, et un collègue en a gagné un autre. Donc en fait, la série a un succès énorme. Je sais qu'elle vient d'arriver en France il n'y a pas très longtemps, mais ça fait 2 ans qu'on a commencé, on a fini la première saison, on a fini la deuxième saison qui est en train d'être passée aux États-Unis en ce moment, et on commence la troisième saison. Là, j'ai commencé il y a une semaine avant d'arriver ici.
Et alors, est-ce qu'il y a une différence en termes d'organisation du travail quand on travaille justement sur une série télé comme ça ou sur un long métrage?
Oui, en fait, tout à fait. Sur un long métrage, comme je disais tout à l'heure, on a un gros budget, on fait un petit peu moins attention au temps et plus à la qualité, en fait. Sur la série télé, on a beaucoup, beaucoup moins de temps. Presque tout est accepté par le réalisateur. Donc c'est plus une question d'individu, savoir connaître exactement son travail et essayer d'atteindre en fait le maximum de qualité. On a constamment à se réadapter aux conditions extrêmes en fait au niveau du temps. Donc par exemple, en une heure, des fois on travaille avec un studio japonais à Tokyo. Donc des fois on a des choses qui nous arrivent, des plans qui sont foirés, des choses à recorriger. Et donc il faut replanifier en l'espace d'une heure, il faut replanifier très très rapidement, de manière à pouvoir faire des corrections, de manière à ce que ce qu'on appelle le workflow général de la série continue en fait à être efficace, mais que je continue en même temps à faire mon travail. Donc j'ai 2 personnes qui travaillent directement avec moi, donc je leur donne du travail, je vérifie que ce qu'ils font fonctionne par rapport à l'ensemble de ce dont on a besoin, parce qu'en fait le travail qu'on fait, c'est un travail de pré-production, donc à Los Angeles, et une fois que ça c'est fait, c'est envoyé au Japon et ça va servir à toute l'équipe d'animation en 3D pour confectionner vraiment la série. Donc c'est beaucoup de réadaptation en permanence. Des fois on a plus de temps, des fois on a moins de temps. Mon travail plus précisément sur la série, c'est de faire ce qu'on appelle les color keys et color scripts, donc les clés couleurs et les script couleurs. Donc les clés couleurs, c'est mettre en place les 2 ou 3 décors, enfin visuellement, le visuel final en fait des 2 ou 3 décors nouveaux qu'il va y avoir par épisode. Donc je fais une peinture, enfin 2 ou 3 peintures, avec pas un maximum de détails, mais juste suffisamment de détails pour donner au reste de l'équipe. Une fois que ça c'est fait, on intègre ça dans ce qu'on appelle le script couleur, qui est en fait une espèce de mini bande dessinée en couleur de tout ce qui est de tout ce qui va être l'ensemble de l'épisode. Donc le tout, c'est d'arriver à à intégrer suffisamment de ces petites images miniatures pour qu'il y ait juste suffisamment d'informations pour le reste de l'équipe. Et puis, si on a plus de temps, on intégrer davantage. Donc, généralement, un script pooler fait entre 15 et 35 images. Et donc, ça, c'est ça qui va servir un petit peu de bible visuelle pour finaliser la série.
Alors, justement, vous avez évoqué le Japon, donc vous travaillez avec eux. Et j'avais lu dans une interview que vous étiez assez intéressé par l'animation japonaise.
Oui, tout à fait. Oui. Je trouve que ce qui se fait en Asie actuellement est très intéressant parce que, et puis bon, l'animation en Asie, c'est un boom énorme en fait actuellement. Tous les pays asiatiques sont en train d'investir énormément dans l'animation parce que se sont rendus compte qu'il y a un apport. Un retour financier en fait qui est très bénéfique, mais c'est pas seulement ça, c'est aussi que ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils aiment prendre des risques. Et ouais. Ils se cantonnent pas dans un univers particulier, bon, comme Disney par exemple, c'est très difficile de sortir des sentiers battus avec Disney. Même DreamWorks, qui disait quand ils ont commencé qu'ils allaient faire quelque chose de différent, c'est vrai que c'est un peu différent, mais c'est ça. On reste quand même dans un même type d'animation. En général, alors que en Asie, ils essayent des choses. J'étais au SIGGRAPH à Vancouver l'année dernière, et donc j'ai rencontré des Chinois. Il y a beaucoup d'échanges actuellement entre la Chine et l'Occident, parce qu'en fait, ils ont besoin, particulièrement la Chine, ils ont besoin de formation, et la formation qu'ils peuvent recevoir, pour l'instant, ils l'ont pas là-bas. Donc, ils essayent d'engager des gens occidentaux pour les former. Et il y a une main d'œuvre en fait énorme. Et donc je leur ai posé la question, je leur ai dit pourquoi, comment se fait-il qu'en fait qu'il y a plus de créativité en Asie actuellement qu'en Occident, et en particulier dans des endroits comme Los Angeles. Et donc ils m'ont dit, mais en fait pour nous c'est une question de survie. Si on fait pas quelque chose d'original, on survivra pas. Et c'est exactement ça. C'est vraiment dans des moments extrêmes où vraiment c'est une question de survie qu'on est le plus créatif. Et c'est, pour moi, c'est la grande leçon qui est en train d'apporter l'Asie.
Et est-ce que vous envisageriez de partir là-bas pour travailler si on fait des propositions?
C'est aussi pour ça que j'étais là-bas. Donc j'envisage tout ce qui est possible. Mais c'est vrai que je suis tellement occupé actuellement avec plein d'autres projets que ce serait probablement pas pour immédiatement. Mais c'est pas impossible.
Alors, je voudrais en venir à l'autre partie de votre carrière, donc parallèlement à ce travail dans l'animation, tout ce qui est au niveau de votre expression artistique personnelle, la peinture, les expos. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça?
Oui, bah donc en fait, j'avais commencé, quand je suis parti aux États-Unis, j'avais commencé à développer un peu, j'ai commencé à réfléchir un petit peu au type d'univers personnel que j'aimerais développer, donc j'ai eu beaucoup d'influences différentes dans la peinture plus classique. Bon, bien sûr, j'avais des influences qui venaient directement de la bande dessinée. À l'origine, je devais être un dessinateur de bande dessinée. J'avais un projet avec Philippe Casa, en fait, qui m'avait proposé de faire une série avec lui, qu'il a réalisé avec un autre dessinateur qui s'appelle Amiante. En fait, on devait faire cette série ensemble. Et puis, je suis rentré dans l'animation, je suis parti aux États-Unis, tout ça, ça s'est pas fait. Mais donc effectivement, des gens comme Mobius, Casa, beaucoup d'autres dessinateurs m'ont influencé au début. Et puis après, j'ai découvert l'illustration américaine, Frank Frazetta et tous les grands illustrateurs américains du début du XXe siècle. Donc tout ça m'a influencé aussi. Et puis j'ai découvert d'autres choses comme l'école de la rivière Hudson sur la côte Est, les symbolistes européens, tout ça a contribué au fur et à mesure à influencer ce que j'ai fait d'un point de vue purement personnel et artistique pour les galeries d'art. Et donc je continue de développer ça maintenant. Et puis c'est vrai que tout ce qui est en fait tout ce que j'ai fait dans l'animation a influencé aussi, parce que tout ce qu'on fait pour le film en fait est très tout ça c'est très lié en fait. L'un influence l'autre en fait.
Alors justement, ça fait une excellente transition vers l'affiche du festival, puisque finalement, moi, ce que je connaissais notamment de vos travaux en galerie, qui sont quand même des peintures... c'est pas figuratif, c'est très imaginaire, mais c'est plus réaliste. Là, on constate que ce que vous avez fait sur l'affiche, donc je vais la remontrer, mais je pense que le public l'a déjà vu. On est finalement beaucoup plus dans une inspiration un peu BD là, oui, sur les personnages. Donc pourquoi ce choix ?
Ben, y avait plusieurs paramètres. Mais en particulier, bon, c'est vrai qu'au niveau du temps, j'étais un peu restreint, mais je me suis dit pourquoi pas. En fait, j'ai vu que l'affiche précédente de, c'était Didier Leblanc, je crois.
Oui.
Donc en fait, m'a inspiré. Je me suis dit tiens, et même quand j'ai parlé donc à Bernard Viss qui m'a demandé de faire cette affiche, en fait, il m'a dit on a plus tendance à être inspiré par la ligne claire. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas en fait retourner à ce que je faisais avant tout le travail de peinture en galerie et essayer de faire quelque chose qui en fait fonctionne surtout pour la France. La bande dessinée est tellement développée en France que je me suis dit, pourquoi pas retourner à ça et faire quelque chose qui soit un peu dans la lignée de la dernière affiche que je trouvais très bien. Et donc j'ai essayé de partir dans cette direction et ça a très bien marché. Donc... Je suis content de l'affiche.
En fait, pour les gens qui connaissent vos travaux, on retrouve quand même des choses qui sont un peu issues de la peinture plus figurative, notamment oui, les montagnes en fond, un oui, peu la façon de planter le décor,
oui, oui,
qui est évidemment plus stylisé sur de la BD, alors que c'est souvent plus travaillé en figuratif.
Oui.
J'ai remarqué que vous aimez bien ce genre de choses, les nuages, les fonds
oui,
de
oui,
montagnes.
Oui. Et c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, tout est connecté en fait. Ce que j'ai appris en animation influence ma peinture personnelle et ma peinture personnelle influence ce que je fais en illustration. Donc c'est, tout ça est un peu connecté. Donc ça me permet vraiment de... C'est plus jongler avec tous les paramètres que j'ai acquis pendant toutes ces années.
Alors pour réaliser cette affiche, comment s'est organisé le travail et quelles étaient les contraintes ? Parce que je sais qu'il y en a.
Oui, oui, effectivement. Donc en fait, les contraintes, en fait, j'avais un thème particulier. On m'a demandé de faire une affiche qui tournerait plus autour de la famille, quelque chose qui soit un peu plus ouvert à un public général. C'est vrai que j'aime bien faire des choses assez relativement soit noires, soit mystérieuses, hein, ou un peu sombres. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on me demandait, c'était pas vraiment ce qui était demandé. On me demandait de faire quelque chose de plus... En gros, de plus grand public, mais de quand même intéressant. Et donc, j'ai essayé de réfléchir un petit peu à tout ça. Et puis, en fait, j'avais des contraintes aussi de format. Donc, il fallait que ça fonctionne sur plusieurs types de formats. Format long, format donc en vertical et horizontal. Il fallait aussi que ça fonctionne, qu'il y ait des éléments dans l'image qui soient réutilisables pour tout un tas de choses.
Ouais.
Donc en fait, il a fallu que je réfléchisse un petit peu à tout ça, que je compose quelque chose qui fonctionnerait à tous ces niveaux.
Oui, et en plus, il faut qu'apparaisse, me semble-t-il, dans les contraintes, il faut qu'il y ait le château.
Voilà, c'est ça. Donc arriver à placer le château au niveau de la composition pour
ouais,
que ça fonctionne à la fois verticalement et horizontalement. Donc, il y avait beaucoup de...
Donc on voit bien le thème de la famille, effectivement, avec l'enfant et puis les deux personnages, on peut comprendre que c'est les parents. Bon, le livre, le château, le côté un peu imaginaire BD, donc
ouais,
effectivement, c'est pas simple au niveau des contraintes de pouvoir traiter une image qui puisse se regarder à l'horizontale ou
oui,
à la verticale.
Oui, effectivement, oui.
Et donc les détails, c'est effectivement les personnages, parce qu'il y a toute une signalétique après qui est réutilisée sur des marque-pages,
oui, voilà, ça,
sur voilà, les badges.
Ça. Et donc en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que j'ai un petit peu cachées dans l'image, pas vraiment cachées, mais tous les petits personnages sur les fleurs, tout ça, tout ce que tu ne vois pas immédiatement.
Oui, effectivement.
Une fois qu'on regarde de plus près, en fait.
Oui, il y a plein de détails. Il y a l'espèce de. Alors, on voit qu'on est bien dans l'imaginaire, sur une espèce de petit dragon.
Oui, oui.
Avec des ailes, puis un peu dragon libellule, on ne sait pas bien. Il y a les tout petits personnages.
Là, je voulais en fait.
Oui.
Quelque chose de médiéval, en fait, connecté au château, mais en même temps qui est. qui est un aspect complètement, pas typiquement médiéval, mais qui est un aspect imaginaire inclus, donc avec des vaisseaux un peu étranges, oui. Flottants. Donc je suis très fasciné par les ovnis, donc c'était un petit peu la connexion.
Oui, d'ailleurs, dans les peintures, il y a des choses effectivement superbes sur ces thèmes-là. Quels sont les projets à l'heure actuelle ?
Ben, à l'heure actuelle, donc, comme je disais tout à l'heure, on vient de démarrer la saison 3 de Transformers Prime. Et puis, je travaille sur plusieurs autres. Bon, je fais entre tout ça, je fais un peu de design pour des jeux vidéo. Là, je viens d'être contacté pour un projet en fait de fan. Il y a deux films qui ont été produits après le Seigneur des Anneaux. Il y a deux films de fans qui ont été produits en fait, qui sont d'assez bonne qualité en fait. Et donc, j'ai été contacté par un réalisateur français qui est en train de faire le troisième. Ils vont avoir une équipe internationale. Avec des tournages en Angleterre et en Europe du Nord. Et donc, il me demande de faire du concept artistique pour leur projet. Donc, il est possible que je m'investisse dedans. Et puis, donc, je viens d'être contacté il y a deux jours pour un autre projet sur un film apparemment sur la Mésopotamie et apparemment les grandes batailles mésopotamienne, donc il est impossible que je travaille dessus, mais je travaille aussi sur une grosse peinture pour un projet de musée de peinture fantastique à Las Vegas. Donc ça, j'ai travaillé depuis pas mal de temps, plusieurs mois, donc par intermittence là-dessus aussi. Donc j'essaye de cumuler tout ça, mais pas de crouler sous la charge.
Parce que d'après ce que j'ai lu, en plus, cette peinture pour l'éventuel musée de Las Vegas, c'est un grand, grand format.
Oui, c'est la plus grande toile que j'ai peinte, ouais, jusqu'à présent. Enfin, qui n'est pas énorme en soi, mais il fait 2 mètres par 1. Et donc, avec le niveau de détail que je mets généralement dans mes peintures, c'est quand même long.
Et puisque finalement, vous avez, à travers votre carrière... entre les dessins 2D, la 3D, l'animation, la peinture à l'huile, etc. Quelles sont les techniques avec lesquelles vous préférez, qui vous paraissent le plus vous correspondre, et est-ce qu'il y a des différences finalement dans le rendu final, oui bien sûr, mais dans la manière dont on va aborder l'œuvre en fonction des techniques, des contraintes des différentes techniques.
Oui, je crois qu'en fait, avant de penser technique, souvent, bon, je pense au thème et au visuel final. Mm-hmm. Une fois que ça c'est déterminé, en fait, je vais essayer d'adapter la technique au thème que j'ai décidé. Donc, la sensation en fait qui en découle est complètement différente, bien sûr, si je travaille avec Photoshop ou si je travaille sur toile. Donc c'est des univers complètement différents. Je préfère toujours travailler sur toile et sur papier et sur toile. Cela dit, bon, Photoshop, au long des années, bien sûr, je suis devenu tout à fait... Enfin, j'utilise Photoshop tous les jours, donc ça n'a plus vraiment trop de secrets pour moi. Mais c'est vrai que je préfère encore travailler de manière traditionnelle.
Oui, parce que finalement, j'avais lu quelque part une interview où vous expliquiez que quand on travaille justement de manière traditionnelle et notamment à l'huile, c'est vraiment un travail avec les sens. Enfin, il y a les odeurs, il y a les textures. Oui. On travaille de la matière, en fait.
C'est ça, en fait. Oui, il y a un aspect tactile, en fait, qui est complètement différent. Même, par exemple, même quand je travaille sur Photoshop, en fait, je préfère quand même faire mes dessins sur papier, les scanner, et puis finir dans Photoshop. Actuellement, avec les tablettes Cintiq, en fait, il y a beaucoup de gens qui commencent à travailler avec les tablettes Cintiq où on dessine directement sur la tablette. J'utilise aussi les tablettes Cintiq, c'est pas le problème, mais c'est vrai que j'aime bien garder, même quand je finis un travail sur ordinateur, j'aime bien garder au moins au départ cet aspect tactile de dessin sur papier. Je crois que c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment remplacer, les tablettes Cintiq ou les tablettes graphiques. n'ont jamais vraiment... C'est vrai que quand j'ai commencé de travailler avec, donc c'était sur Dinosaur en 96, quand j'ai commencé vraiment de travailler sur ordinateur avec les tablettes graphiques, j'ai pas aimé du tout au début. Et j'ai travaillé quelques mois avec, et puis je suis retourné au traditionnel. Et je me suis même dit à un moment donné que j'allais quitter l'animation probablement à cause de ça. Et puis j'ai complètement changé d'avis en fait, parce que je me suis rendu compte qu'il y a un contrôle énorme en fait de tous les paramètres quand on utilise Photoshop ou n'importe quel autre programme. Il y a un contrôle total des paramètres, et c'est l'outil idéal pour tout ce qui est média en fait. Donc que ce soit publication ou film, c'est vraiment un outil idéal. Et donc, la facilité avec laquelle on peut manipuler l'image, en fait, c'est vraiment ce qui a commencé de m'intéresser.
Alors sinon, je voulais aussi aborder autre chose qui est un peu moins en ligne directe avec cette carrière artistique, mais vous pratiquez je ne sais plus combien d'arts martiaux à côté, vous êtes instructeur...
Oui.
Dans quelle mesure ça, c'est je suppose que ça doit... avoir une influence peut-être sur certains aspects de la carrière artistique, ou est-ce que ça en a ou pas, et qu'est-ce que ça apporte?
Oui, enfin, c'est marrant parce qu'en fait, au niveau simplement de la carrière artistique, bon, je dirais par rapport à ce que je fais tous les jours, peindre de manière régulière et sans vraiment avoir d'activité physique, ça m'apporte un complément énorme. Physiquement effectivement, et puis tout à fait par hasard en fait il y a 2 ans je crois, donc on m'a contacté pour faire un peu de travail de cascadeur en fait sur une série télé. Donc j'ai fait ça juste pour m'amuser. J'avais été déjà figurant une fois pour un ami qui faisait un tournage de film pilote en fait sur les croisades. Donc j'avais eu un petit peu déjà ce type d'expérience, mais donc ça c'est vraiment c'était vraiment marrant. J'ai jamais vraiment eu l'intention de me lancer dedans de manière purement professionnelle, mais c'était intéressant à faire, c'est marrant, et puis c'est une expérience. Donc
Oui, parce que finalement, les arts martiaux, qui sont quand même pour la plupart d'inspiration orientale, sont toujours assortis d'une certaine philosophie de vie, d'une manipulation des énergies, enfin, de choses qui pourraient très bien après être réinvesties dans la création artistique ou éventuellement donner la capacité justement à se mettre un peu en position contemplative quand on peint. Ou...
Oui, je crois que. Enfin, bon, c'est vrai qu'il y a. Bon, je ne veux pas rentrer trop profondément dans le sujet, mais il y a beaucoup, beaucoup de différents aspects, différentes façons d'approcher les arts martiaux. Il y a un aspect très ésotérique et très philosophique, et puis il y a un aspect très violent aussi, avec tout ce qui est en train de se développer au niveau mixed martial arts et UFC et toutes ces choses-là. Donc, et moi je suis passé par les deux, j'ai vu les deux. J'ai commencé par des arts martiaux, enfin, mon approche des arts martiaux au début, bien sûr, passé par tous les films de Bruce Lee et les films de Kung Fu chinois et tout ça. À un moment donné, on s'aperçoit que tout ça, il y a une part de fantaisie qui est un petit peu, qu'il faut un petit peu dépasser. Et c'est vrai que c'est là que j'ai commencé de m'intéresser plus à l'autre aspect, donc thaïlandaise et tout le jiu-jitsu brésilien et toutes ces choses-là. Et donc à un moment donné, quand on a fait ça pendant... Bon, j'ai fait ça 32-33 ans que je fais ça. Et donc on commence de faire une synthèse en fait de ces deux côtés en fait dans les arts martiaux. Et aussi avec l'âge, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on commence de mettre de côté un peu plus et de développer plus un aspect mental. Et donc, enfin, je crois que, oui, il y a tout l'aspect calme et je dirais, dépense d'énergie à côté, permet aussi de se recentrer, en fait, quand on travaille sur un travail artistique.
Alors, donc, la vie vous a emmené aux États-Unis, où vous êtes installé depuis un bon moment. Là, on vous voit revenir sur... Bon, il y a eu un moment où vous étiez revenu en France pour certains projets. Bon, là, il y a l'affiche des Imaginales, il y a eu quelques travaux faits en France. Est-ce qu'à un moment donné, vous envisagez de revenir, ou est-ce que la France vous manque?
C'est vrai que c'est difficile à dire. À un moment donné, je crois qu'on ne sait plus complètement de quoi va être fait le futur. Il y a des choses effectivement qui manquent, mais c'est vrai qu'on apprend aussi à s'adapter, parce qu'on se rend compte que où qu'on aille, il y a des choses qu'on va aimer, il y a des choses qu'on va détester. Donc je pense que c'est plus une question d'acceptation de où on est à un moment donné de sa vie. Et effectivement, accepter quelles que soient les conséquences, en fait, suivre en fait ce qui va se présenter. Donc, je rejette pas la possibilité de revenir ici un jour, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est plus j'essaie de revenir à peu près une fois par an. J'aimerais bien essayer peut-être de revenir un peu plus longtemps. Très souvent, j'arrive en coup de vent, puis. Je repars, donc là par exemple, ça, généralement c'est 2 semaines. C'est plus rare que je passe 3 semaines, mais j'aimerais bien essayer de passer un peu plus de temps. Donc les États-Unis, c'est vrai une fois qu'on en a fait le tour, on aimerait voir autre chose. C'est pour ça que l'Asie m'attire aussi pas mal. Donc je crois que c'est vraiment une question de déjà être ouvert à ce qu'il est possible de voir. Dans le monde, plutôt que de se renfermer dans son petit monde local. Mais c'est vrai que c'est difficile à dire de quoi va être fait le futur maintenant.
Et sinon, en arrivant aux États-Unis comme ça, relativement jeune français qui arrive comme ça dans les studios Disney, qui après veut se bâtir une carrière, est-ce que le fait d'être français, ça a plutôt été un atout ou pas?
Oui et non, en fait. C'est-à-dire que je crois que les Français, d'une certaine manière, les Américains, le regard qu'ils ont sur les Français, en fait, ils peuvent avoir un regard très... une pluralité de façons de voir les Français. Donc je crois qu'il y a une reconnaissance artistique, en fait, qui est presque innée, en fait. Quand on arrive là-bas, on sait que... les Américains nous regardent d'une certaine manière par rapport à l'apport artistique, surtout pour des films comme Disney, par exemple. Donc il y a un certain respect, en fait. Maintenant, à d'autres niveaux, au niveau de la vie quotidienne, c'est assez différent. Et puis c'est vrai que les Français sont tous différents aussi, de la même manière que les Américains sont différents. Je crois que faire des généralités sur les gens d'une manière générale, ce serait un petit peu, c'est un peu dommage. Donc chacun est différent, mais j'ai vu des Français se comporter très mal aux États-Unis, j'ai vu des Français se comporter très bien. Je pense qu'il y a, j'ai vu des Américains se comporter très mal et se comporter très bien. Donc c'est un choc culturel de toute manière. C'est plus une manière de... C'est une façon de gérer ça, en fait, qui va permettre un véritable échange culturel. Mais c'est vrai que, d'un point de vue artistique, oui, les Français ont une certaine réputation.
Oui, vous aviez-vous, au niveau de vos études, fait des études artistiques?
Oui, que j'ai raté.
J'ai vu ça.
Oui, en fait, j'ai jamais vraiment... curieusement, j'ai jamais vraiment eu de succès dans mes études artistiques, soit parce que j'ai, enfin, soit volontairement, soit involontairement, je dirais. Mais ça m'a mis le pied à l'étrier. C'est pas pour dire que les études artistiques sont mauvaises. C'est plus, je dirais, ça dépend aussi de où on fait ses études artistiques. Et puis ça dépend de ce qu'on cherche, parce que j'ai commencé, donc j'ai fait un an de Beaux-Arts à Clermont-Ferrand. Bon, à l'époque il n'y avait pas vraiment les départements que je recherchais là-bas. Ça m'a ouvert l'esprit sur des choses que je ne connaissais pas, comme la peinture à l'huile, la peinture acrylique. Ça a commencé de mettre en place des choses pour le développement de dessins personnels. Mais c'est vrai que j'ai vu très rapidement que j'irais nulle part en restant dans cette école. Donc j'ai pas fini mon diplôme, je suis parti juste avant la fin de l'année. J'ai tenté l'école d'Angoulême. Donc Angoulême, on était deux personnes à qui on nous a dit en fait on vous prendrait, mais il faut que vous recommenciez à zéro votre cursus, et puis vous n'aurez pas de bourse d'État. À l'époque, moi j'étais financièrement, je ne pouvais pas vraiment le permettre, je savais que mes parents ne pourraient pas me soutenir financièrement. Donc ce que j'ai fait, je suis resté à Clermont-Ferrand, et puis j'ai fait un cursus d'histoire de l'art en fait, que j'ai raté aussi. Donc j'ai fait une année que j'ai redoublé. Enfin, donc j'avais les bourses universitaires qui me permettaient quand même de subvenir. Mais par contre, ce que ça m'a apporté, c'est une expérience. Et c'est là que je me dis que chacun a sa voie de tracé. Parce qu'en fait, ce cursus que j'avais pas vraiment choisi, qui s'est imposé de lui-même, m'a servi complètement après coup. En fait, j'ai appris l'architecture médiévale et antique. Et c'est quelque chose qui m'a complètement servi après, sans l'avoir choisi en fait. Mmh. Et puis donc après ça, j'ai eu en fait la chance de, j'avais toutes mes choses, mon entraînement d'arts martiaux qui était en cours, donc je voulais passer ma ceinture noire de karaté, je voulais rester à l'endroit où j'étais, je devais faire mon service militaire. Et la seule manière pour moi de rester à l'endroit où j'étais, c'était de faire une préparation militaire. Donc j'avais choisi de faire ça, j'avais signé. Et puis une semaine avant de le faire, je rencontre un ami en fait qui était objecteur de conscience, qui s'occupait de toutes les activités artistiques sur le campus où j'avais passé déjà 5 ou 6 ans. Mmh. Et il allait finir, il cherchait un remplaçant. Et donc, bon, une fois encore, bah, c'était une opportunité qui s'est présentée et que j'ai pris au vol. Donc j'ai annulé ma préparation militaire. Ça me permettait de rester sur ce campus, de faire un portfolio, donc de préparer un portfolio artistique, ce que j'ai fait. Et juste après ça, ben, j'ai eu de nouveau la chance extraordinaire de rencontrer quelqu'un qui m'a un peu mis le pied à l'étrier pour rencontrer le PDG de la société IDDH et à qui j'ai présenté mon dossier. Et puis donc il m'a envoyé à Angoulême, alors curieusement donc à Angoulême où j'avais pas pu rester en fait. Et donc j'ai commencé ma carrière au studio de IDDH à Angoulême, où je voyais effectivement des dossiers arriver de l'école de BD où j'avais pas pu entrer.
Oui, comme quoi la vie a des détours. Enfin, vous avez un peu l'impression que votre chemin s'est tracé au fur et à mesure et que les choses arrivaient au moment où vous étiez prêt.
C'est tout à fait ça, oui. C'est vrai que c'est là qu'on se rend compte qu'il n'y a pas... Enfin, je crois qu'il y a des fois le chemin est tracé, on a simplement à le suivre. Il n'y a pas vraiment de... Que le talent soit là ou pas, c'est vrai que le talent déjà c'est une chose, le travail c'en est une autre. Je crois qu'il y a la leçon que j'ai apprise, c'est qu'il n'y a pas de talent, il n'y a pas de génie qui arrive par hasard. C'est aussi une question de travail personnel, et puis c'est aussi une question de chance. Et ça, on ne choisit pas la chance qu'on a dans la vie. Les choses arrivent, on les prend ou on les prend pas. En parlant des arts martiaux, j'avais un professeur qui me... À l'époque, professeur d'arts martiaux vietnamien qui me disait il y a un moment dans la vie où une chance se présente, on la prend ou on la prend pas. Et si on la prend pas, on le regrettera toute sa vie. Et j'ai vraiment eu l'impression, donc quelques années plus tard, que la chance s'est présentée. Et c'est vrai que c'était un risque à prendre. Je ne savais pas si je voulais faire de l'animation. Je me suis dit pourquoi pas. J'étais fasciné par l'animation, mais. Je me disais aussi, bah, peut-être je vais être mis dans un carcan, je vais être enfermé. Il y a beaucoup de... Quand on est étudiant et qu'on ne se rend pas compte en fait, de ces choses-là, il arrive un moment où on se dit effectivement... j'ai entendu des étudiants me dire, je ne vais pas en école d'art parce qu'on va me mettre dans un moule. Et en fait, ce n'est pas du tout ça. En fait, on acquiert de nouvelles techniques, de nouvelles choses qu'on n'avait pas vues avant. On peut les rejeter après, ça ne change pas le cours de sa vie en fait. Tout ce qu'on fait, c'est ajouter à son arsenal, et une fois qu'on développe son style, ben on peut rejeter ces choses ou les utiliser. Mais donc effectivement, j'ai eu cette chance qui s'est présentée et je l'ai prise.
Il y a de nombreuses personnes qui travaillent dans le domaine de l'animation, donc des illustrateurs qui se consacrent uniquement à ça. Pourquoi avoir-vous souhaité préserver le côté création personnelle, la peinture qu'est-ce que ça apporte en plus?
Je crois que déjà, les gens qui se cantonnent uniquement à ce qu'ils font, j'ai souvent eu l'impression, parce que j'en ai rencontré beaucoup dans ma carrière, j'ai souvent eu l'impression qu'il y avait une sorte de résignation en fait. C'est un petit peu comme si la créativité, l'énergie créative les avait disparu. Et ça m'a toujours un peu... j'ai eu toujours eu un petit côté triste quand je voyais ça. Parce que pour moi, j'avais toujours cette envie passionnée de faire mes propres projets. Et bien sûr, je suis toujours aussi, quand je travaille sur un projet qui n'est pas pour moi, l'animation, c'est un type de travail différent. L'ego personnel, à ce moment-là, il faut le mettre de côté. On travaille avec une équipe entière sur un projet qui est plus grand que soi-même et vers lequel on va tous, avec l'équipe ensemble, on travaille tous vers ce but personnel. Et le fruit en fait final de cette collaboration, en fait, tout le monde va en bénéficier. Donc c'est un travail très différent. Une fois qu'on fait un travail personnel, le fruit final est gratifiant d'une autre manière. C'est complètement personnel. Bien sûr, on a plus de fierté personnelle de ce qu'on a réussi à achever. Donc je crois en fait que c'est une question tout à fait individuelle en fait de choisir de garder cette création personnelle ou pas. Maintenant, moi, j'ai décidé de la garder et c'est pas quelque chose que je laisserai partir. C'est extrêmement gratifiant, je trouve, d'arriver à finir quelque chose, à achever un but précis qui n'est pas nécessairement pour un studio ou pour quelqu'un d'autre, mais qui fait partie de sa vie personnelle.
D'accord, je pense que c'est ce qui va nous servir de conclusion, puisqu'on est presque arrivé au terme du temps qui nous était imparti. Donc là, est-ce que dans le public, vous avez des questions à poser à Christophe Vacher ? Bon, j'ai l'impression qu'on a à peu près couvert tout ce que vous aviez envie de savoir. Bon, merci pour votre attention.
Merci
à Christophe pour
merci
avoir accepté si gentiment de nous répondre. Et à bientôt sur une autre table ronde. Merci à vous.
Très bien.
Bonjour, je rencontre ma fille parce qu'elle est à l'école là.
D'accord.
Et on a vécu aux États-Unis 3 ans,
elle est restée
aux États-Unis surtout.
Ah oui.